L'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
À la fois reine et compositrice, Hortense de Beauharnais a légué la romance en partant pour la Syrie que son fils Napoléon III a hissé au rang d'hymne officiel au moment du Second Empire. Du point de vue de l'ensemble des dizaines et dizaines de romances composées par la compositrice reine, le peu que l'on connaît de sa musique est focalisé sur son utilisation diplomatique et laisse dans l'angle mort les raisons intimes qui pouvaient motiver ses activités musicales. À l'heure où le château de la Malmaison et l'association La Nouvelle Athènes se sont associés pour faire chanter et enregistrer ses romances, on se laisse prendre au jeu de se demander si le roman des passions amoureuses n'était pas un peu plus qu'une mode. En racontant la jeunesse d'Hortense, nous allons à la rencontre d'une jeune fille qui n'arrive pas à aimer celui auquel son beau-père de Napoléon l'a contrainte à se marier, comme si certaines romances ont permis à Hortense de dévoiler les tourments que pouvaient lui causer les obligations que sa naissance est venue lui imposer. Pour examiner l'hypothèse sous plusieurs points de vue, ce métaclassique éploré est un documentaire où se rencontrent les analyses et témoignages de la musicologue Laure Schnapper, de la chanteuse Colline Dutilleul, de la directrice du château de la Malmaison, Elisabeth Caude, et pour commencer, de la biographe de la reine Hortense, Marie-Hélène Bellac, une émission qui donne à entendre des romances d'Hortense grâce au disque publié par l'association La Nouvelle Athènes sur le label Parati.
Quelle est cette femme éplorée qui du haut de ce roc désert jette au loin sa vue égarée sur le sombre abîme des mers? Elle frissonne, elle chancelle, elle sent qui porte le pauvre pécheur. Hélas, elle attend la nacelle qui porte le pauvre pécheur.
Marie-Hélène Bellac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biographe, notamment de Hortense de Beauharnais. Pour situer qui elle est, il faut dire qu'elle est la fille de l'impératrice Joséphine, mais elle n'est pas la fille de l'empereur.
Non, effectivement, elle est la fille du premier mari de Joséphine, puisque Joséphine a d'abord été mariée au vicomte de Beauharnais.
Dont elle n'est pas la fille non plus.
Dont non, prétendait-il, ah, prétendait-il qu'elle n'était pas sa fille. Et d'ailleurs, le couple a très peu fonctionné. Mais enfin, là-dedans, Joséphine a été extrêmement habile parce qu'elle a obtenu une séparation de biens avec son mari. À l'époque, on ne divorçait pas. Elle a obtenu la garde notamment de sa fille. Par contre, son fils Eugène a été à son père, mais enfin, elle s'en est aussi occupée quand il était tout petit. Et elle a parfaitement suggéré sa vie après donc cette séparation, au point même que, au moment de la Révolution française, quand Alexandre de Beauharnais est devenu un personnage en vue, il avait été élu aux États généraux comme député de la noblesse, puis ensuite à l'Assemblée, et c'était un personnage en vue, et elle-même a beaucoup côtoyé à ce moment-là tous les milieux éclairés, disons, de la Révolution.
À la Révolution, Hortense, elle n'a jamais que 6 ans, puisqu'elle est née en 1783. Et puis, quelques années plus tard, le 21 janvier 1796, elle se retrouve coincée entre sa mère et Napoléon. Elle écrit dans son journal quelques années plus tard, « À table, je me trouvais placée entre ma mère et un général qui, pour lui parler, s'avançait toujours avec tant de vivacité et de persévérance qu'il me fatiguait et me forçait à me reculer. »
Oui, absolument. C'est un déjeuner qui a lieu au Luxembourg, au palais du Luxembourg. Et effectivement, Hortense trouve ce général d'abord, comme on le disait, un mal peigné, ayant un afro-accent, l'accent corse, et puis effectivement, attirant l'attention de sa mère beaucoup trop, à son avis. Et peu de temps après, on sait que Marie-Rose Joseph Taché de la Pagerie,
qui était
son nom, devient donc change de nom de Rose, elle devient Joséphine. selon la décision de Bonaparte, qui l'épouse.
Ah oui, parce qu'il n'a pas tardé. Hein. Ils se sont rencontrés le 21 janvier, le 9 mars, elle était mariée.
C'était fait, absolument. Ouais. Et d'ailleurs, Hortense raconte que sa mère n'a même pas osé le lui avouer et qu'elle le lui a fait dire par Madame Campan, qui était la directrice de l'institution où elle se trouvait en pension.
Alors, Madame Campan, c'est l'ancienne femme de chambre de Marie-Antoinette qui va se retrouver plus ou moins la gouvernante d'Hortense. Elle tient une pension où
oui,
il y a 22
alors,
élèves.
Oui, c'est beaucoup plus qu'une gouvernante. D'abord, il faut savoir que quand on dit femme de chambre de Marie-Antoinette, c'est en fait une femme d'une grande culture. C'est pas ce qu'on appellerait aujourd'hui une femme de chambre.
Plutôt la confidente.
Voilà,
alors.
Et aussi la confidente, et aussi elle s'est occupée de ses bijoux. Mais surtout, elle tient cette pension où elle reçoit, je dirais, à la fois du monde de l'ancienne noblesse éclairée, des nouveaux hommes en vue, disons, du nouveau régime, et où elle leur donne une éducation intéressante parce qu'à la fois, on leur apprend les manières de l'ancien régime, les bonnes manières, disons plutôt la musique, la danse, mais en même temps, on leur apprend l'histoire, on les ouvre à ce qu'est le nouveau monde.
Elle a 22 élèves donc, Hortense est 9e en lecture et écriture, 14e en dictée. Les autres sont très très forts ou elle est mauvaise élève ?
Non, elle n'est pas mauvaise élève, mais elle est un peu paresseuse, disons. C'est une enfant un peu nonchalante et en fait, elle s'intéresse beaucoup plus à la danse, au dessin, à la musique que à des matières plus difficiles, disons.
Alors venons-y, parce que pour la musique, ça n'est pas Madame Campan qui enseigne directement, mais viennent des figures importantes comme un certain Plantade, qui est un nom plutôt de premier rang quant au genre romance à l'époque.
Oui, viennent effectivement des musiciens et elle a donc les meilleurs maîtres comme Plantade, mais comme Castro,
Carbonel
également. Elle aime la musique et donc très jeune, elle s'y intéresse, elle apprend à chanter parce que dans la bonne société, on chante, les femmes chantent, c'est un des capacités qu'ils peuvent avoir. Elles peuvent aussi jouer de ce qu'on va appeler le piano ensuite. Ça va se retrouver toute sa vie. Toute sa vie, elle va poursuivre en fait ses études musicales avec ses meilleurs maîtres et elle va elle-même composer un certain nombre de romances. Alors, la romance est un genre très particulier qui est né d'ailleurs au XVIIIe siècle. Hein. Il y a une romance qui est encore connue aujourd'hui puisqu'elle a été chantée par Barbara Hendricks, qui s'appelle Plaisir d'amour.
De Martini, hein. Oui,
voilà,
qui était déjà un tube à l'époque.
Voilà, qui était déjà... Donc, c'est plutôt un désert assez doux, un texte souvent qui a trait à une histoire d'amour, souvent un peu larmoyant.
Lors Schnapper, quand on chante des romances au tout début du 19e siècle, on chante surtout Plaisir d'amour de Martini, parce qu'il est déjà bien installé dans les consciences, Marie-Antoinette l'aimait beaucoup.
Oui, et pas seulement Marie-Antoinette, c'est un air qui a continué à être apprécié jusqu'à la monarchie de Juillet, puisque Louis-Philippe appréciait beaucoup cette romance. Donc, on la connaît même encore aujourd'hui, donc elle a traversé les siècles.
C'est le premier Martini à avoir publié, du moins en France, des romances et des airs détachés avec un accompagnement de piano, puisque avant lui, vous dites que les morceaux de ce genre étaient gravés juste avec une basse simple,
voilà,
ou simplement chiffrée.
Voilà, il y avait juste une basse, et petit à petit, effectivement, l'accompagnement s'est étoffé, même si l'accompagnement est toujours resté très simple, puisque l'idée, c'était que on devait s'accompagner soi-même en chantant. Donc non seulement l'air était simple, mais l'accompagnement était simple aussi.
L'idée, c'est aussi que c'est les paroles qui comptent.
Bien sûr, absolument, vous avez raison. C'était vraiment un art de salon, la romance. Et le texte était aussi important que la musique. Il n'y avait pas de vocalise, c'était très syllabique, parce que le texte était important. La manière de prononcer était aussi importante. Évidemment, on a perdu aujourd'hui cette manière, sans doute, de chanter la romance, qui était très particulière, puisqu'il fallait mettre en lumière le texte.
Parce qu'on a parfois l'image d'une aristocratie qui aime les choses savantes et sophistiquées. Là, au contraire, on a une aristocratie qui, musicalement, aime les choses que tout le monde peut chanter.
Absolument,
finalement,
et la romance d'ailleurs était chantée partout, pas seulement à la cour impériale. C'était vraiment un art très un art, si on peut dire un art, en fait, c'était quand même très, très simple. C'était des chansons, finalement, c'était les chansons de l'époque. Et on les chantait aussi bien chez les bourgeois que dans l'aristocratie.
Et ça, dès le début du 19e, ou ça s'est démocratisé après ?
Alors, la romance a évolué, hein, a évolué. Après, on a appelé ce qu'on appelle la romance bourgeoise, avec Sophie Guy et des gens comme ça, qui se complique aussi. L'accompagnement devient un peu plus riche, ça évolue. Hein.
Mais Sophie Guy, c'est plutôt les années 1820-30.
Oui,
c'est après. Alors, si on revient au début du 19e siècle, quand Hortense elle-même compose dans les années 1800 ses propres romances, elle a quoi comme modèle? Elle a Martini, parce que ça circule beaucoup, et puis là aussi Charles-Henri Plantade qui vient chez Madame Campan lui apprendre.
Et puis il y a Gara aussi.
Gara.
Sa mère, hein, Joséphine de Beauharnais, avait un salon où on entendait Gara notamment.
Gara, c'est le même qui allait chanter Plaisir d'amour à Marie-Antoinette.
Voilà, c'est le même, exactement. Donc on peut, le lien, il peut être là, c'est-à-dire qu'elle a entendu évidemment souvent des romances chez sa mère, et puis chez Madame Campan, puisqu'elle a été pensionnaire dès l'âge de 12 ans, elle a été formée à la musique chez Madame Campan, où là aussi elle a pu entendre et être initiée en fait à l'art de la romance.
Alors, il y a une romance de Hortense qui va marquer les consciences, qui s'intitule « Partant pour la Syrie ou le beau du noix », qu'elle compose en 1807 pendant que sa mère joue au tric-trac.
C'est ce qu'on dit dans les mémoires. Est-ce que c'est vrai? On n'en sait rien. Mais enfin, elle l'aurait composée donc à la Malmaison. Et c'est assez étonnant quand on l'entend aujourd'hui de penser à la fortune qu'a eue cette mélodie qui est quand même très rudimentaire, très simple.
Ouais.
Dès sa sortie, elle a eu un succès fou. Et Napoléon lui-même l'a apprécié. Il lui a demandé d'en faire une marche. Donc il y a ce côté un peu martial, hein, dans l'accompagnement. Et il l'a fait jouer par son armée pendant ses campagnes. C'est assez étonnant. Et c'est resté un peu comme ça l'emblème de l'Empire. Et après la chute de l'Empire, la mélodie a continué en fait, à être fredonnée, par les bonapartistes. Et quand le prince président Louis-Napoléon a été élu au suffrage universel, premier président de la République, son chef de bal, enfin son directeur des bals, Isaac Strauss, dit-on, a eu l'idée de, en tout cas il l'a joué dès le premier bal en février 1849 à l'Élysée. Il a joué donc le beau du noix, et à partir de là, ça a été l'hymne quasiment officiel du Second Empire jusqu'à sa chute. On dit que la dernière fois que ça a été joué, c'est quand Napoléon III a quitté le territoire, c'était l'Allemagne, pour son exil en Angleterre. Et après, la romance a disparu, évidemment, puisqu'elle était le symbole du Second Empire.
Elle devient musicienne populaire quand son fils, Louis-Napoléon, rentre en France en 1848, puis devient empereur des Français en 1852.
Et qui va avoir le goût de mettre en avant l'œuvre de sa mère.
Lui fait chanter l'air de la reine Hortense. Hein, on l'appelle souvent d'ailleurs, hein, non pas le beau du noix ou en partant pour la Syrie, on l'appelle plus familièrement, je dirais, dans les journaux, l'air de la reine Hortense. Elle a sauvé son troisième fils, donc Louis-Napoléon, celui qui allait devenir Napoléon III, dans des conditions d'ailleurs absolument rocambolesques, extraordinaires. Elle l'a extirpé, elle s'est déguisée en anglaise, elle a traversé la France alors qu'elle n'avait pas le droit d'être en France, elle a réussi à rencontrer Louis-Philippe et la reine Amélie, alors qu'elle n'aurait jamais dû être là. Bon, en fait, après elle est passée en Angleterre et après elle a dû rentrer très rapidement à Reinenberg parce qu'on lui a expliqué qu'elle n'était vraiment pas persona grata. D'autant que Louis-Napoléon était un conspirateur et qu'on se méfiait beaucoup de lui.
Et alors, cet hymne se termine de façon assez surprenante.
Oui, complètement, parce que vous savez que dans la deuxième partie du Second Empire, l'opposition se développe, et surtout quand, dans les années 1868, une certaine liberté de presse est rétablie, et les opposants à Napoléon III s'en prennent du même coup à cet hymne. L'hymne de la reine Hortense, qui jusque-là était donc presque l'hymne officiel de l'Empire, apparaît soudain comme un hymne fade, qui ne rime à rien. Je vous lis par exemple ce que affirme le Gaulois à ce moment-là. « La France impériale sent le besoin d'un nouvel hymne patriotique. L'air de la reine Hortense est un peu trop innocent. » Quand l'Empire le chante, il semble qu'il roucoule. Vous voyez ? Et donc, on trouve qu'une romance, c'est trop fade, c'est trop ennuyeux, et qu'elle mène les soldats à la mort, je cite encore, quand elle était faite pour mener les amants à l'amour. Et les opposants à Napoléon III disent « Rendez-nous la Marseillaise ». Et dans les dernières années, la toute fin de l'Empire, la romance d'Hortense est l'hymne, en quelque sorte, des partisans de Napoléon III, tandis que la Marseillaise est celle des Républicains. Donc vous voyez, cette romance qui avait été tellement... qui était devenue si populaire et rejetée comme quelque chose d'indigne pour la France.
Et détrônée, on peut le
dire. Détrônée, elle est détrônée, absolument, elle est détrônée.
Il contracte tous deux. C'est une
Mais qu'une romance devienne comme ça une espèce d'emblème d'un régime et donc aussi un hymne, c'est la preuve que cette activité musicale qui pouvait paraître juste ludique à côté de la mère qui joue au tric-trac est en fait quand même importante du point de vue diplomatique.
Alors, rappeler le lien de Louis-Napoléon Bonaparte qui est fraîchement élu avec sa mère, c'était évidemment souligner le lien avec l'empereur Napoléon Ier. Puisque,
c'est ça, c'est une façon de revendiquer l'ascendance.
Oui, puisque Napoléon III va jouer, évidemment, pendant tout son règne, sa légitimité viendra du fait que c'était le neveu de Napoléon Ier. Donc le fait d'utiliser les romances de sa mère, c'est faire le lien... Avec Napoléon.
Et alors, à partir du moment où le fils d'Hortense érige cette romance en hymne, on disait, le répertoire entier, on peut dire, de Hortense connaît aussi une nouvelle visibilité avec un éditeur qui s'appelle Eugel, qui publie Le Ménestrel, qui arrive sur tous les pianos des bourgeois de France et de Navarre, a priori. Et là, on a des romances d'Hortense qui peuvent être chantées absolument partout, où il y a des
pianos.
Oui,
et puis, en 1853, effectivement, Eugel publie une édition luxueuse, qui intitulait l'album artistique de la reine Hortense, avec un soi-disant des nouvelles romances qu'on aurait retrouvées.
Avec une biographie d'Hortense aussi.
Avec des illustrations. Parce que Hortense n'était pas seulement musicienne, elle dessinait aussi. Elle avait été, comme toute femme de la haute société, elle avait été formée par Mme Campan aussi au dessin et à la peinture. Et la nouveauté, c'est qu'elle avait édité très tôt des romances illustrées, en fait. Chaque romance était illustrée par elle-même. Et après, l'habitude va continuer. On va avoir des séries de recueils de romances pendant tout le siècle avec des illustrations, et elle aurait été la première à le faire.
Et à quoi ressemblent ces illustrations ?
C'était le style troubadour à l'époque, qui, sous le consulat, qui était en vogue. Donc, c'est toujours des histoires de chevaliers et d'amour. Et
dans
donc,
la nature.
Beaucoup, c'était très chevaleresque à l'époque. D'ailleurs, ouais. Le Beaudunois, c'est ça. C'était le compagnon de Jeanne d'Arc. Alors évidemment, c'est un Moyen-Âge qui est complètement réinventé, puisqu'on sait que Dunois n'a jamais été en Syrie. mais peu importe, on est dans le fantasme.
C'est le Moyen-Âge du 19e siècle. Quoi.
Voilà, c'est le Moyen-Âge revu et corrigé.
De ma triste destinée, oh Dieu, abrège le cours. que cette journée soit le dernier de mes jours. Coupable autant que victime, parjure à chaque serment, je me réponds de mon crime et regrette mon amour, et regrette mon
Dans la mesure où elle compose au salon pendant que la mère joue au trictrac, je repense à cette image parce que ça me semble important, ça veut dire que l'activité de compositrice, elle est une activité sociale, elle n'est pas seule au fond du jardin avec ses partitions, elle est en compagnie, les paroles sont potentiellement elles-mêmes un jeu de société.
Alors, en fait, elle chantait. Et à l'époque, quand on chante souvent ses propres compositions. Donc,
d'accord.
Il n'y a pas la séparation comme aujourd'hui de compositeur, de compositeur. Et bon, on sait que pendant très longtemps, celui qui joue ses propres compositions. Donc comme elle chantait beaucoup et qu'elle s'accompagnait, d'ailleurs, elle le faisait aussi avec Charles Flahaut, son amant qui avait, dit-on, une très belle voix. Ils faisaient des duos ensemble. Donc tout naturellement, quand on chante, on a tendance à vouloir, à l'époque en tout cas, composer ses propres mélodies. Il faut savoir qu'elle-même disait qu'elle n'était pas très douée pour écrire. Donc elle prenait on ne sait pas si elle les commandait ou elle prenait des textes déjà écrits. Et en plus, elle les faisait harmoniser par Plantade ou par les musiciens qui étaient autour d'elle. Donc finalement, tout ce qu'elle composait, c'était simplement des mélodies. Donc ça peut venir assez facilement quand on est en société. C'est difficile de savoir comment elle composait, mais... C'est pas non plus très, très compliqué.
Oui, donc la partie de piano qu'on trouve dans les albums publiés par Eugel, elle est...
C'est pas d'elle. C'est pas d'elle, elle n'harmonisait pas elle-même. Mais elle en a quand même composé beaucoup, puisqu'on en compte au moins 144. Hein. Le recueil complet de ses romances éditées par Vialon en compte 144, ce qui prouve quand même que ça l'occupait quand même... pas mal.
À quel moment on fait le catalogue, Vialon, c'est quand?
Alors Vialon, c'est sans date, mais j'ai trouvé 1867, donc c'est après sa mort, hein, c'est bien plus tard, mais c'est pas daté.
Donc c'est à partir du moment où le corpus aussi a pris une valeur diplomatique qu'on se met à le cataloguer.
Oui, absolument. En tout cas, pour quelqu'un de son rang, d'avoir autant composé, c'est ça qui a frappé l'imagination, enfin, c'est quand même assez rare.
Oui, parce qu'il n'y en a pas d'autres reines compositrices dans l'histoire?
On dit que Marie-Antoinette en a composé quelques-unes, mais enfin, pas, en tout cas pas autant, et on les connaît pas.
Oh, toi que mon trouble offense et qu'irrite mes accents, daigne accomplir la vengeance, punis-moi de mer et tourments. Je désire vivre encore et je déteste le jour.
Colline du Tilleul, on se demande des fois si, comme le malheur est si favorable à la romance, si la romance n'est pas à prescrire un malheur quasi artificiel parfois pour ces figures-là, pour qu'elles puissent jouir de ce moment musical.
Alors, c'est vrai que dans la romance, il y a un côté assez mélancolique, et je relisais ce matin les définitions de la romance depuis 1730 avec Rousseau et d'autres, et c'est vrai que on racontait souvent... On voulait mettre en musique des histoires, donc il y a un côté narratif, souvent mélancolique, souvent amoureux, souvent ces moments aussi des batailles où on pleure l'être aimé qui est parti. Et je pense que ça fait aussi partie de la vie d'avoir envie de verbaliser sa tristesse, peut-être pour pouvoir la partager, peut-être pour pouvoir la guérir. Et c'est vrai que... Il y a aussi, je pense, dans la culture française aussi, cette manière de souffrir, mais presque de manière plaisante. Mmh. C'est pas qu'on se réjouit de souffrir, mais dans cette plainte, il y a quelque chose de sensuel, il y a quelque chose de beau, quand même.
Et c'est-à-dire qu'on va jusqu'à s'inventer un malheur, ou se voir sa vie sous un angle juste assez mélancolique pour que son expression musicale n'en soit que plus capiteuse.
J'imagine que le côté un peu drama queen de ces reines a vraiment existé.
Ah ouais.
Mais encore une fois, dans ce qu'on peut sentir dans la romance, il peut avoir quelque chose de vraiment d'authentique dans le fait de souffrir et finalement de partager un sentiment universel aussi dans la souffrance. Et je sais que les gens qui viennent écouter ça, parce que finalement ces romances sont assez désuètes, je le disais, donc il faut quelque chose de... Enfin, ça doit être naïf, ça doit être simple, ça doit aussi, dans la manière de le chanter, être sans effet, sans accent, sans appoggiature, etc. Donc rester toujours d'une manière très simple de dire son malheur et de dire la narration. Et
ça veut dire stylistiquement de dépouiller certaines habitudes vocales
ou... C'est dépouillé de toute façon. Ouais. Enfin, moi qui ai parcouru quand même depuis le Moyen-Âge jusqu'à la musique contemporaine, la mélodie en général, on sent que cette musique, moi j'ai fait 15 ans de piano, donc j'ai cette capacité de pouvoir m'accompagner pour pas mal de répertoires. Et c'est vrai que là... On est sur du 1-4-5-1, sur des triolets, enfin sur des choses qui sont tout à fait simples. Et on se dit, il faut remettre ça dans le contexte du salon. Donc moi, je suis persuadée que les gens venaient avec leurs histoires. Ils voulaient raconter une petite histoire qu'on mettait sur deux accords. Et ce n'était pas plus compliqué que ça. Et les mélodies devaient aussi être simples, faciles à retenir. Parce que probablement, après, peut-être que la sœur venait le rechanter le week-end d'après. Enfin, voilà, donc... Le but, je pense, était de faire passer un sentiment et de raconter simplement une histoire en chanson. Quand on décide, je trouve, de prendre, de se mettre dans l'interprétation de ces mélodies, il faut y descendre, justement, en mettant l'esprit et le texte avant toute chose.
Y descendre, vous dites, c'est-à-dire de véritablement faire un travail de pénétration.
Ouais, de ce que... enfin, moi, je le fais en général quand je suis dans la musique. J'essaye d'avoir cette attitude, mais ce positionnement de s'oublier soi pour être vraiment à l'écoute de ce qu'il en ressort au niveau musical. Donc, étant pianiste, je joue toujours la partie du piano ou de la harpe, peu importe, avant même de chanter la mélodie, pour sentir vers où on va harmoniquement. Bon, là, c'est relativement facile dans ces mélodies-là, mais bon, quand on fait d'autres répertoires, et de sentir, tiens, qu'est-ce que le compositeur a voulu me dire juste harmoniquement. Après vient l'étude du texte, que je prends de manière complètement à part, où j'essaye de retrouver l'auteur, et j'essaye de comprendre, à l'époque aussi, qu'est-ce que ça voulait dire quand on décidait de parler comme ça dans un salon. Bon, voilà, de prendre la parole, qu'est-ce qu'on voulait dire avec ça? Et puis, de m'engager véritablement, donc jamais faire des choses tièdes, on va dire. Quand il y a une souffrance, bon, sans tomber dans des choses, faut pas...
Oui, sans faire la tragédienne, parce que ce serait anachronique.
Non, complètement. Ouais. Voilà, ça c'est toujours très important, mais je pense que, et aussi vocalement, Alnice, avec qui j'ai travaillé et avec qui je donnais des masterclass justement sur la romance, parlait de cette voix claire, qui est apparemment un terme qu'on utilisait à l'époque pour pouvoir chanter ces mélodies sans artifice dans la voix.
Donc, ça voulait dire d'avoir un timbrage justement particulièrement ouvert?
Mais en tout cas, très clair, je pense, dans la prosodie, mais aussi de ne jamais mettre de poids sur la voix. Donc jamais essayer de timbrer ou surtimbrer pour avoir une couleur, lyrique, plutôt que d'être juste en essayant d'illustrer le mot. Donc il y a une simplicité quand même de l'émission vocale qui doit être là. Et ça, tout le monde ne peut pas le faire.
Parce que ça, c'est un paradoxe qu'on a pointé avec Laure Schnapper, à savoir que c'est un genre, la romance, qui est donc amateur dans la forme, anti-sophistiqué, en même temps qu'il a une circulation strictement de salon.
Mais après, il y a quand même un raffinement. Moi, je trouve quand même que la forme, et aussi à certains moments, quand même, il y a des petites fioritures qui sont là, de côté de l'autre. Il y a quand même une élégance qui se dégage, je trouve, de ces mélodies et qui est fondamentale à devoir respecter, quoi. Mais
cette élégance, elle se chante comment? Parce que c'est une élégance qui ne doit pas surarticuler, qui doit...
Il n'y a pas de surarticulation. Après, je pense aussi que c'est un peu ce qu'on est. Si on est quelqu'un qui va rechercher ce détail de l'élégance en général dans sa vie, on va le retrouver aussi dans sa manière d'interpréter. Et moi, je pense que j'ai un peu ça en moi. En tout cas, j'aime tendre vers le beau, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Mais...
Oui, mais en allant vers le romance, peut-être que vous avez justement eu une occasion de vous simplifier vous-même.
Oui, sur certaines choses, il y a des moments, je me souviens, quand j'étais très jeune, j'avais un prof qui m'avait dit « Colline, on ne sucre pas le sucre ». Et ça permet, je pense, au fur et à mesure des années aussi, quand on avance, moi je me rends compte, je veux dire spirituellement aussi, dans ce que je grandis en tant que personne et donc en tant qu'interprète, je me détache de plus en plus de beaucoup de choses, de matérialité, de revenir à une ligne claire, un peu comme en BD, je veux dire, et d'essayer le plus possible de ne pas venir... perturbé, de pas venir perturber juste la ligne.
Ouais.
Après, moi j'ai un tempérament assez dramatique, donc à certains moments, je dois me dire, quand j'enregistre, je dis ah non, là c'est trop, il faut mettre moins, parce que c'est vrai, quand on tombe dans le drame et la mélancolie, parfois on a envie, et je réécoutais ce que j'ai fait dans le CD d'Hortense justement, et je me suis dit ah oui, à certains moments là, il y a peut-être un peu trop de consonnes, etc. Mais bon, voilà, c'est vécu.
Dans la nature, agitant doucement mon cœur, des gazons gémés d'un verdure, j'admirais la naissante fleur, ce clair ruisseau, ce frais bonheur, cet air que flore en parfum. Ces oiseaux, leurs jolis ramages, tout me plaisait, il n'était là. Il était là.
Finalement, vous avez, pour interpréter ces romances, pas tant que ça, recours à l'imaginaire du salon lui-même, c'est-à-dire de la condition, de la situation sociale dans laquelle ce répertoire pouvait être chanté. Vous mentalisez quand vous chantez ce que ça pouvait être?
Non, je l'ai encore fait il y a deux week-ends avec Aline Zilberach, où on a chanté justement dans un château pour une famille des descendants aristocratiques qui étaient près de la cour de Napoléon, etc. Et on l'a fait. Ce qui me rappelle, en fait, c'est plutôt la proximité. Quand on est au salon, là, on était vraiment en salon. On a joué sur un Erard de 1800 qui faisait partie de la famille et qui a toujours été dans ce château qui était où Napoléon et Joséphine sont venus.
Et est-ce que d'être dans cette quasi reconstitution historique vous révèle des choses
Je ne sais pas si ça nous révèle, mais c'est touchant. La première fois qu'on a joué à Malmaison et que j'ai chanté du Hortense, c'est comme quand tu vas à Leipzig chanter du Bach. Il y a quelque chose d'émouvant dans se dire et une forme de résonance finalement. On se dit, ça a été créé là. Donc peut-être, je sais pas, spirituellement,
on
se sent
poussé, un peu,
oui.
Ouais,
ce serait un peu... Mais parfois,
quand même,
on en a envie.
Chose, enfin...
oui. En fait, là, en passant dans ce château, en regardant aussi les salons, l'architecture, le mobilier, les visages des gens de la famille sur les portraits, etc., on est porté, fait, d'une certaine manière, par... par ce décorum.
Malmaison est donc la demeure de l'impératrice Joséphine.
Elisabeth Coe.
Malmaison a été achetée en avril 1799 lors de la campagne d'Égypte. Et Joséphine avait déjà repéré ce lieu, mais évidemment hésitait quant au prix avancé par les locuteux du Mollet. Bon. Finalement, elle décide d'acquérir Malmaison. Bonaparte revient de la campagne d'Égypte, découvre un petit peu la décision de Joséphine et finalement entérine cette acquisition, et très rapidement intervient le coup d'État. Et ce coup d'État va faire basculer, si vous voulez, le couple Bonaparte vraiment dans l'orbite du pouvoir, puisque Bonaparte devient premier consul. enfin, l'achat, c'est avril 1799.
Oui. Et le coup d'État,
c'est novembre 1799.
D'accord.
Et immédiatement, Percier et Fontaine sont introduits auprès de Joséphine à Malmaison pour proposer, en fait, la restauration de Malmaison et le fait de mettre au goût du jour, au goût à la mode, eh bien, la demeure. Et c'est vraiment dans ce contexte qu'il faut bien voir comment Malmaison devient, si vous voulez, à la fois un lieu de la société consulaire, où tout le monde se presse pour venir rendre ses hommages au nouveau pouvoir, un lieu également où c'est un moment de divertissement et de distraction, si vous voulez, pour Bonaparte, qui vient à Malmaison tous les décadis, c'est-à-dire tous les 10 jours, en quelque sorte, en s'éloignant momentanément des Tuileries, qui est en fait véritablement le lieu du pouvoir officiel. Ce qui veut dire que, naturellement, Malmaison est aussi un lieu de pouvoir. Donc, il y a effectivement les actes politiques et diplomatiques qui sont passés, traités ici à Malmaison. Et il y a des séances de travail ici à Malmaison qui sont en quelque sorte le prolongement de ce qui est aux Tuileries. Les Beauharnais étaient très artistes. Hein. Il faut bien se rendre compte que son frère Eugène, qui n'a pas composé de romance, mais Eugène, chantait et animait cette société consulaire. Et quand, après le divorce de sa mère, Joséphine, au moment du remariage de Napoléon avec Marie-Louise, en fait, a reçu la consigne de s'éloigner de Malmaison et d'aller à Navarre, dans ce château de Navarre près d'Évreux, eh bien, Eugène est allé également là-bas à Navarre et a été réputé pour animer par son bel canto la petite société qui entourait Joséphine. Alors, pour revenir à Hortense, donc Hortense, après son passage au sein de l'institution de Madame Campan à Saint-Germain-en-Laye, effectivement rejoint Malmaison, fait partie de Malmaison et est complètement intégrée dans cet embryon de société consulaire et de vie de cour consulaire. Très tôt, sa mère envisage son mariage avec Louis, frère de Napoléon.
Ce qui ne lui fait pas vraiment plaisir.
Non, parce qu'effectivement, elle était plutôt très amoureuse du général Duroc. Et c'est exact aussi que Louis présentait, je dirais, des faiblesses psychologiques qui étaient assez inquiétantes. Et il a toujours eu à l'égard d'Hortense une sorte de jalousie féroce, de méfiance, qui faisait que ça, effectivement, pénalisait beaucoup le calme et la sérénité du couple. Hortense va finalement suivre le destin politique, qui est le destin politique d'un membre de la famille impériale, même si elle est du côté Beauharnais et pas du côté Bonaparte. Et elle va être reine de Hollande à partir de la nomination de Louis comme roi de Hollande. Et elle partira avec beaucoup une certaine tristesse. Et cette tristesse va être s'accuser aussi du fait qu'elle aura 3 fils de son mariage avec Louis. Et le fils aîné va mourir très tristement du croup. Et cette mort tragique de cet enfant en bas âge va terriblement marquer Hortense.
Sa triste rêverie chante la fille de Trémor.
La première partie de la vie d'Hortense, c'est effectivement une formation typique de la haute société de l'époque, même dans l'esprit de la pré-révolution. Voilà. La deuxième partie, c'est la vie en tant que reine de Hollande, non ? Et avec déjà marqué par un certain nombre de drames familiaux et de tristesses familiales qui, j'en reparlerai, qui engendrent une certaine mélancolie chez elle. Et puis, la troisième partie, c'est vraiment une vie d'errance, hein, avant de qu'elle ne s'établisse à Arenenberg. Et là, c'est une troisième partie de sa vie où elle est à nouveau éprouvée par un certain nombre d'épreuves, comme la mort de son deuxième fils, Napoléon Louis, puis sa maladie elle-même, et elle meurt en 1837. Donc Hortense, je dirais qu'il y a, il y a trois approches. Il y a une approche où, effectivement, elle a une âme d'artiste. La deuxième approche, c'est que probablement elle avait une âme d'artiste un peu mélancolique, un peu portée à la mélancolie. Et puis la vie, malheureusement, là également, ne l'a pas épargnée. Et elle a eu vraiment des épreuves successives, donc, dont l'épreuve quand même très forte de son mariage raté, en fait.
En 1802.
Voilà, exactement. Ouais.
Mais est-ce qu'on peut dire que l'écriture de romance serait presque une espèce d'atelier de la mélancolie, puisqu'on est quand même au moment d'un romantisme qui s'avance, elle a lu Rousseau, donc on pourrait très bien imaginer ses romances comme des tentatives de fuite de la vie mondaine, alors qu'au contraire, elles sont incrustées dans la vie de salon ici, à Malmaison.
Alors, il y a plusieurs idées dans ce que vous venez de dire. D'abord, les romances sont devenues un art d'expression d'Hortense en tant que telle, finalement. Hein.
Et tout au long de sa vie, sur les trois périodes.
Hein. Mais oui, en fait, finalement, elle a commencé très vite, enfin, peut-être pas jeune, au début, dans les périodes de formation, mais assez vite, elle a composé. Hein. C'est-à-dire qu'elle commence par, effectivement, apprendre la musique. Elle a un certain nombre de maîtres. À l'Institut Campan, elle bénéficie de Jadin comme professeur de piano. Elle bénéficie de Carbonel comme maître de chant. Ensuite, elle va aussi également bénéficier de Plantade. Donc,
sans compter tous les chanteurs d'opéra qui viennent ici même.
Bon, alors ça, c'est toute la période de Saint-Germain. Et puis après, ici, comme je vous le disais, effectivement, il y a une société et une vie de cour, quelque part, avec la musique qui est ancrée dans cette vie de cour. Joséphine elle-même n'a pas les talents d'Hortense, mais aime la musique. Et il ne faut pas oublier que nous avons ici eu, construit par Percier et Fontaine, un petit théâtre de cour qui a disparu, mais qui faisait partie finalement de la vie de société de Malmaison, avec vraiment une musique de salon qui est développée. La campagne de Russie est un moment où elle développe très clairement des romances, avec cette idée d'éloignement de son frère et du risque de le voir mourir. Voilà. Et puis, il y a une autre période, c'est la période qui est vraiment la période de l'exil, où là, loin de la France, ayant perdu les êtres chers qui faisaient son entourage, elle compense cette tristesse par les romances. Et dans ses correspondances, récemment, Christophe Pincemaille a notamment étudié toutes ses correspondances avec Aiglé Auguier, qui est une de ses grandes amies. On voit combien elle suit en quelque sorte le rythme de ses productions de romances, puisque en 1816, elle annonce en avoir déjà 71, et que vous savez que le corpus maintenant est recensé à peu près 150 romances. Anne-Lise Andris a montré comment, quelque part, et Christophe Pincemaille aussi le montre, comment la mélancolie naturelle d'Hortense est quelque part transcendée par ses romances qui l'aident finalement à affronter les épreuves. D'ailleurs, elle le dit dans une de ses correspondances. Elle dit, quand elle est trop submergée par le chagrin, elle prend ses enfants et elle se met à chanter et la douleur passe. Nous voyons bien que Malmaison pourrait donner l'impression d'être une demeure complètement néoclassique, puisque c'est Percier et Fontaine qui est là à présider dans l'esprit du retour à l'antique, au renouveau des décors et au renouveau d'ameublement. En réalité, les choses sont beaucoup plus complexes parce que quelque part, on a également, en même temps, une sorte de courant pré-romantique qui est celui de cette atmosphère. Alors, qui est celui de cette atmosphère ? Évidemment, Hortense le symbolise beaucoup. Joséphine elle-même, dans ses voyages, dans certaines expressions, dans ses comportements, dans un certain nombre de représentations d'elle-même, on voit que se poindre déjà ce pré-romantisme. Mais évidemment, Hortense accentue cette approche. On le remarque dans les choix musicaux d'Hortense, dans ses thématiques, dans cette expression du moi à travers la romance. On le voit dans la façon dont elle, de façon très personnelle, elle veut toujours rester très protégée, ne pas se mettre en avant. Vous savez combien elle veillait à ne pas être publiée, moins connue, moins troublée. Enfin, le terme, je me rappelle, moins connue, moins troublée. C'est bien ça, moins connue, moins troublée. En fait, rester dans la discrétion. Et comment, dans les albums qu'elle va finir par, notamment le premier album qu'elle fait publier à titre complètement anonyme en quelque sorte et non ouvert au public, non commercialisé, les accompagnements de documents iconographiques qui jalonnent
dessine elle-même.
Alors, parfois, c'est un peu toujours comme la musique. C'est-à-dire qu'elle dessine, mais il y a souvent le maître de dessin qui est par derrière. Voilà. Mais il y a, par exemple, Turpin Crissé qui a dessiné dans cet album. Hein. Et donc, on voit à quel point l'expression est déjà romantique. Effectivement, Annelise Andris a étudié cette question de la connotation politique d'un certain nombre de romances, c'est-à-dire que les types de romances qui sont celles liées à l'amour, l'amour incompris ou non partagé, les déceptions ou ne me quitte pas, etc. Et qu'il y a d'autres romances qui sont un peu plus liées à la politique, comme par exemple justement celle qu'elle écrit au moment de la campagne de Russie. Il faut quand même faire attention, ce sont des allusions pour ceux qui connaissent le contexte et qui sont dans ce contexte, mais ça ne devient pas pour autant des manifestes en tant que tels politiques, vous voyez.
Si ce n'est que chanter l'amour incompris devant son beau-père, qui est quand même celui qui l'amène à un mariage forcé, ça devient quand même un acte de résistance.
Oui, c'est un acte de. Mais ça garde toutes les formes de la conversation de salon chantée. Voilà.
Qu'elle a appris chez Madame Campan.
Voilà, vous voyez. Ouais. Donc, je dirais que tout est dans une grande subtilité.
La douce fille du printemps, parfume en l'air sans être vue.
Elle a des leçons de conversation, elle a des leçons de musique qui n'ont peut-être pas le même statut que d'apprendre simplement à lire et écrire. C'est-à-dire qu'elle est, de par le fait que sa mère soit mariée à Napoléon, vouée à avoir un rôle diplomatique important. Est-ce que insister sur l'apprentissage de la musique, c'est aussi la doter d'une espèce d'ascendant diplomatique ?
Absolument, et rattaché aussi...
Marie-Hélène Bellac.
Ce nouveau régime, d'une certaine manière, une aristocratie. N'oublions pas que Napoléon crée la noblesse d'Empire. Donc, il y a ce souci aussi de grandes fêtes. Napoléon donne de grandes fêtes. Et d'ailleurs, Hortense est réputée pour son habileté à organiser les fêtes, notamment les bals. C'est une très bonne danseuse aussi. Et elle organise à merveille les quadrilles, qui est cette danse, donc, à l'époque. Elle excelle tellement qu'elle dépasse Caroline. Pauline, par exemple, la fille de Napoléon, ce qui met celle-ci en fureur.
Donc être une bonne diplomate à l'époque, ça veut dire d'être une bonne ambianceuse, quoi.
En partie, pas ouais. seulement, mais en partie, bien sûr. On adore se retrouver dans le salon d'Hortense avec ce charme qui mêle, je vous dis, l'ancien et le nouveau. Ouais. Et c'est vrai que beaucoup de diplomates y font. Sur un autre registre, par exemple, j'ai retrouvé une lettre écrite par un attaché du tsar à Hortense, à la suite de parties de billard. Et le tsar la remercie pour cette partie de billard, parce qu'elle était aussi elle était très bonne au billard, et pareil, elle prenait des leçons. Donc le salon est un endroit, non seulement de convivialité, mais un endroit où on fait la politique. Hein. Il ne faut pas oublier que quand Bonaparte, encore consul, hein, s'installe au Luxembourg puis aux Tuileries à la Malmaison, il fait venir beaucoup de gens et c'est vraiment une faveur d'être reçu par Joséphine. Hortense est souvent là, justement, avec sa mère. Elle prend des leçons. Et pour vous donner un peu une idée de en quoi ça peut jouer un rôle diplomatique, par exemple, Joséphine et Hortense ont joué un rôle important dans la réconciliation avec l'ancienne noblesse. Vous savez que Bonaparte veut le retour des émigrés, qu'on pacifie la situation.
Elle est quand même potentiellement, même si elle est que 9e
oui.
ou 14e même en dictée, elle est quand même tenue en estime par Bonaparte,
oui.
puisque Bonaparte va confier sa petite sœur Caroline à Madame Campan, justement
oui.
parce qu'il considère qu'elle est moins savante qu'Hortense.
Oui, oui, et ouais. en fait, c'est un fiasco parce que Caroline, encore, je n'ai pas les notes de Caroline, mais elles sont bien plus mauvaises que celles d'Hortense. Et Caroline, toute sa vie, en veut Hortense. D'ailleurs, il y a une correspondance entre Caroline et Hortense qui est conservée en Italie, qui est absolument passionnante, avec des moments où elle se rapproche, des moments où elle se sépare. Et Caroline est furieuse parce qu'un jour, Napoléon dit « Si pendant un conseil, on disait qu'Hortense a besoin de me voir, je sortirai pour la voir. Mais si c'est Caroline ou un de mes frères, je ne sortirai pas.
Ouais. »
Donc, il manifeste sa préférence pour Hortense.
Elle écrit dans ses mémoires « Mon beau-père, donc oui. Napoléon, est une comète dont nous ne sommes que la queue. Il faut le suivre sans savoir où il nous porte. Est-ce pour notre bonheur? Est-ce pour notre malheur ?»
Oui.
Dès lors qu'en effet, elle est la belle-fille
oui.
Et en même temps la belle-sœur. Elle devient la belle-sœur. Oui, c'est qu'elle est réquisitionnée,
voilà,
en fait.
Oui, ouais. Vous pouvez utiliser ce mot. Oui, en fait, elle est très soumise à Napoléon. Elle l'admire. Elle le craint toujours un peu.
Il est trop grand à nos yeux pour avoir besoin de rigueur.
Voilà.
Ouais.
Et en fait, c'est vrai que d'abord, elle suit sa mère et son beau-père, qui estime d'ailleurs que c'est sa fille. D'ailleurs, il l'adoptera. Hein. Et elle se retrouve contrainte d'obéir. Mais enfin, ce n'est pas seulement parce que c'est Bonaparte, puisqu'à l'époque, c'est encore Bonaparte. C'est parce qu'on sait que le grand malheur de Joséphine, qui l'a amené d'ailleurs à la séparation et non pas au divorce, puisqu'il n'y a pas de divorce dans le couple impérial, c'est son incapacité à avoir des enfants. Et Joséphine a eu l'idée qu'on pourrait dire machiavélique, c'est-à-dire elle s'est dit, on va marier Hortense à l'un des frères de Bonaparte, en l'occurrence Louis, qui est un de ses jeunes frères, et comme ça ils auront sûrement des enfants, moi je ne peux pas en avoir, mais bon, il n'y a pas de raison qu'ils n'en aient pas, et le consul adoptera un peu la mode d'ailleurs romaine, cet enfant qui deviendra son successeur. Donc vous voyez, c'est un moyen de pallier en fait à son infertilité, un moyen aussi de s'ancrer dans une dynastie. Donc Hortense a épousé Louis qu'elle n'a jamais aimé. Et d'ailleurs pour le mariage, Bonaparte lui avait offert une parure de diamants magnifiques, sa mère lui avait fait faire une robe éclatante et elle a mis une robe blanche avec des perles. Elle n'a pas voulu mettre ce vêtement d'apparat. Elle a pleuré et en fait, elle a très peu vécu avec Louis. Hein.
Mais elle l'a essayé, mais elle n'arrivait pas.
Non, elle n'a pas essayé de l'aimer.
Alors, parce que Madame Campan
lui
voulait.
Lui a dit qu'elle devait. Oui,
alors,
oui.
Ça, c'est des pages, mais troublantes comme tout. Oui. C'est-à-dire, vous ressortez les lettres de Madame Campan à Hortense. Aimable Hortense, vous me promettez de garder votre cœur libre et en état d'accepter le lien que l'on vous proposera. Elle a même la formule, vous aimerez après et pour toujours.
Oui.
Elle a même la formule, estimez d'abord, vous aimerez après et pour toujours.
Non, mais elle a décidé qu'elle ne l'aimerait pas. Alors.
Elle a décidé.
Ah oui, je ne veux pas prendre la défense de Louis, qui est d'abord c'est un grand malade. Alors c'est vrai que vivre avec un grand malade, c'est difficile. Mais elle avait un certain nombre de liens avec lui, notamment tous deux avaient lu Rousseau, tous deux, vous voyez, avaient un intérêt pour les idées des Lumières, tous deux avaient un peu les mêmes idées sur la manière d'éduquer les enfants. Elle aurait pu s'en rapprocher. Mais, et d'ailleurs, Louis, à un moment, a essayé. Mais elle n'a pas voulu, elle n'a pas voulu. Elle a décidé qu'elle ne l'aimait pas et qu'elle ne l'aimerait jamais.
Mariage le 4 janvier 1802, naissance du premier garçon le 10 octobre.
Oui, et tous les enfants d'Hortense portent le nom de Napoléon.
Ouais.
Ce n'est pas un hasard. C'est parce que justement, ils sont destinés à faire partie, finalement, de cette dynastie.
Il y en a une que ça a dû agacer, c'est quand même la sœur de Napoléon.
Ah, ben oui,
De voir ses propres enfants...
Bien sûr. Ah, ben de toute façon...
retiré du trône à jamais.
Absolument, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, quand, alors finalement, donc Bonaparte, juste un peu avant l'Empire, a voulu adopter cet enfant. Donc il s'est rendu chez Louis et Hortense, Louis n'était pas là, donc il a exposé, il s'est rendu avec un piquet important de cavalier, il a exposé donc à Hortense son idée, et Hortense était absolument effrayée, et donc elle n'a rien dit, de toute façon c'était pas à elle de décider, c'était à Louis. Et Louis est rentré dans une rage épouvantable. Il a évidemment convoqué, je dirais, le banc et l'arrière-banc de sa famille, qui tous ont fait blocage, ont refusé en disant comment on veut nous démettre de nos droits, alors que, comme disait Napoléon, ils n'ont aucun droit, finalement. Et pour cet enfant, donc il a été obligé de reculer. Mais enfin, il a quand même, dans un premier temps, prévu une clause qui lui permettrait d'adopter à sa majorité un de ses enfants si lui-même n'avait pas d'enfant. Entre-temps, bon, finalement, il y a eu le roi de Rome avec Marie-Louise, donc il ne l'a pas fait. Mais c'est vrai que Napoléon adorait en plus les enfants d'Hortense, surtout
ah oui, ça, vous avez plusieurs pages.
Ah oui, il le mettait sur la table, il le faisait jouer, il se mettait à quatre pattes. C'était un vrai père, un papa gâteau, disons.
Voilà. Alors, il était heureux d'être grand-père, par adoption, on peut dire. Alors qu'elle était quand même malheureuse en ménage, et dans ses mémoires qu'elle commence en 1816, elle a dit, mais je me demande si elle n'est pas en ça romantique, c'est qu'elle cherche une sorte de consolation dans les belles phrases qu'elle met dans ses mémoires. La seule idée qu'on pourrait prétendre à ma main sans me convenir me déplaisait, c'est à qui pourrait me marier, ma main semblait appartenir à tout le monde, ma mère jouissait de mes succès et moi j'étais humiliée de cette espèce d'inquisition continuelle.
Oui, elle est romantique, ouais. Bien sûr.
C'est presque si elle aime son malheur pour le plaisir pour de le raconter.
Oui, pour se plaindre, oui. Ouais. Parce que je vous dis, en fait, en plus, elle a vécu très peu de temps avec Louis, parce qu'il était toujours parti, ou c'était elle, notamment quand son premier fils est mort alors qu'elle était reine d'Hollande, en 1807, elle est partie pour se changer, disons, les idées dans les Pyrénées. Et puis, elle ne voulait pas rentrer en Hollande. La Hollande, elle détestait, c'était froid pour elle. Et puis, c'était Louis, vraiment, elle n'en voulait pas. Alors que Napoléon lui avait fait quand même, je dirais, un sort très envié. Puisque non seulement elle était reine d'Hollande, mais elle pouvait avoir la régence. Donc, vous voyez, Napoléon ne comprenait pas qu'elle ne veuille pas remplir ce rôle. Mais il a accepté que finalement, elle reste pendant 2 ans et demi à Paris, qu'elle garde ses enfants auprès d'elle parce qu'elle n'avait pas envie de retourner chez Louis. Donc, vous voyez, et quand elle est rentrée finalement en Hollande, elle y restait très peu de temps, même pas un mois et demi, 2 mois, si j'ai bonne mémoire, et elle est repartie pour prendre les eaux à Aix. Donc cette vie commune a été courte.